Edmond de Goncourt et Jules de Goncourt, Germiny Lacerteux. Préface. Il nous faut demander pardon au public de lui donner ce livre et l'avertir de ce qu'il y trouvera. Le public aime les romans faux. Ce roman est un roman vrai. Il aime les livres qui font semblant d'aller dans le monde. Ce livre vient de la rue. Il aime les petites œuvres polissonnes, les mémoires de filles, les confessions d'alcôve, les saletés érotiques, le scandale qui se retrousse dans une image aux devantures des libraires. Ce qu'il va lire est sévère et pur. Qu'il ne s'attende point à la photographie décolletée du plaisir. L'étude qui suit est la clinique de l'amour. Le public aime encore les lectures anodines et consolantes, les aventures qui finissent bien, les imaginations qui ne dérangent ni sa digestion ni sa sérénité. Ce livre, avec sa triste et violente distraction, est fait pour contrarier ses habitudes et nuire à son hygiène. Pourquoi donc l'avons-nous écrit ? Est-ce simplement pour choquer le public et scandaliser ses goûts ? Non. Vivant au XIXe siècle, dans un temps de suffrage universel, de démocratie, de libéralisme, nous nous sommes demandé si ce qu'on appelle les basses classes n'avait pas droit au roman, si ce monde, sous un monde, le peuple, devait rester sous le coup de l'interdit littéraire et des dédains d'auteurs, qui ont fait jusqu'ici le silence sur l'âme et le cœur qu'il peut avoir. Nous nous sommes demandé s'il y avait encore, pour l'écrivain et pour le lecteur, en ces années d'égalité où nous sommes, des classes indignes, des malheurs trop bas, des drames trop mal embouchés, des catastrophes d'une terreur trop peu noble. Il nous est venu la curiosité de savoir si cette forme conventionnelle d'une littérature oubliée et d'une société disparue, la tragédie, était définitivement morte. Si, dans un pays sans caste et sans aristocratie légale, les misères des petits et des pauvres parleraient à l'intérêt, l'émotion, à la pitié, aussi haut que les misères des grands et des riches. Si, en un mot, les larmes qu'on pleure en bas pourraient faire pleurer comme celles qu'on pleure en haut. Ces pensées nous avaient fait oser l'humble roman de Sœur Philomène en 1861. Elles nous font publier aujourd'hui Germiny Lacerteux. Maintenant, que ce livre soit calomnié, peu lui importe. Aujourd'hui que le roman s'élargit et grandit, qu'il commence à être la grande forme sérieuse, passionnée, vivante de l'étude littéraire et de l'enquête sociale, qu'il devient par l'analyse et par la recherche psychologique l'histoire morale contemporaine, aujourd'hui que le roman s'est imposé les études et les devoirs de la science, il peut en revendiquer les libertés et les franchises. Et qu'il cherche l'art et la vérité, qu'il montre des misères bonnes à ne pas laisser oublier aux heureux de Paris, qu'il fasse voir aux gens du monde ce que les dames de charité ont le courage de voir, ce que les reines autrefois faisaient toucher de l'œil à leurs enfants dans les hospices. La souffrance humaine, présente et toute vive, qui apprend la charité. Que le roman ait cette religion que le siècle passé appelait de ce large et vaste nom « humanité », il lui suffit de cette conscience. Son droit est là. Chapitre 1. Sauvée, vous voilà donc sauvée, mademoiselle. fit avec un cri de joie la bonne qui venait de fermer la porte sur le médecin. Et, se précipitant vers le lit où était couchée sa maîtresse, elle se mit avec une frénésie de bonheur et une furie de caresses à embrasser, par-dessus les couvertures, le pauvre corps tout maigre de la vieille femme, tout petit dans le lit trop grand, comme un corps d'enfant. La vieille femme lui prit silencieusement la tête dans ses deux mains, la serra contre son cœur, poussa un soupir, et laissa échapper « Allons, il faut donc vivre encore. » Ceci se passait dans une petite chambre dont la fenêtre montrait un étroit morceau de ciel coupé de trois noirs tuyaux de tôle, des lignes de toit, et au loin, entre deux maisons qui se touchaient presque, la branche sans feuilles d'un arbre qu'on ne voyait pas. Dans la chambre, sur la cheminée, posait dans une boîte d'acajou carrée une pendule au large cadran, aux gros chiffres, aux heures lourdes. À côté, deux flambeaux, faits de trois cygnes argentés tendant leur col autour d'un carquois doré, étaient sous verre. Près de la cheminée, un fauteuil à la Voltaire, recouvert d'une de ces tapisseries à dessins de damier que font les petites filles et les vieilles femmes, étendait ses bras vides. Deux petits paysages d'Italie, dans le goût de Berlin, une aquarelle de fleurs avec une date à l'encre rouge au bas, quelques miniatures, pendaient accrochées au mur. Sur la commode d'acajou, d'un style empire, un temps en bronze noir et courant, Sappho en avant, servait de porte-montre à une petite montre aux chiffres de diamants sur émail bleu entouré de perles. Sur le parquet, un tapis flammé allongeait ses bandes noires et vertes. À la fenêtre et au lit, les rideaux étaient d'une ancienne perse à dessins rouges sur fond chocolat. À la tête du lit, un portrait s'inclinait sur la malade et semblait du regard peser sur elle. Un homme aux traits durs y était représenté, dont le visage sortait du haut collé d'un habit de satin vert et d'une de ses cravates lâches et flottantes, d'une de ses mousselines mollement nouées autour des têtes par la mode des premières années de la Révolution. La vieille femme, couchée dans le lit, ressemblait à cette figure. Elle avait les mêmes sourcils épais, noirs, impérieux, le même nez aquilin, les mêmes lignes nettes de volonté, de résolution, d'énergie. Le portrait semblait se refléter sur elle, comme le visage d'un père sur le visage d'une fille. Mais chez elle, la dureté des traits était adoucie par un rayon de rude bonté, je ne sais quelle flamme de mâle dévouement et de charité masculine. Le jour qui éclairait la chambre était un de ces jours que le printemps fait lorsqu'il commence, le soir vers les 5 heures, un jour qui a des clartés de cristal et des blancheurs d'argent, un jour froid, virginal et doux, qui s'éteint dans le rose du soleil avec des pâleurs de limbe. Le ciel était plein de cette lumière d'une nouvelle vie, adorablement triste, comme la terre encore dépouillée, et si tendre qu'elle pousse le bonheur à pleurer. Eh bien, voilà ma bête de Germinie qui pleure, dit au bout d'un instant la vieille femme en retirant ses mains mouillées sous les baisers de sa bonne. « Ah, ma bonne demoiselle, je voudrais toujours pleurer comme ça, c'est si bon. Ça me fait revoir ma pauvre mère, et tout, si vous saviez. » « Va, va, » lui dit sa maîtresse en fermant les yeux pour écouter. « Dis-moi ça. » « Ah, ma pauvre mère !» La bonne s'arrêta. Puis, avec le flot de paroles qui jaillit des larmes heureuses, elle reprit, comme si, dans l'émotion et l'épanchement de sa joie, toute son enfance refluait à son cœur. « La pauvre femme, je la revois la dernière fois qu'elle est sortie, pour me mener à la messe. Un 21 janvier, je me rappelle. On lisait dans ce temps-là le testament du roi. Ah, elle en a eu des mots pour moi, maman. Elle avait 42 ans quand elle a été pour m'avoir. Papa l'a fait assez pleurer. Nous étions déjà 3 et il n'y avait pas tant de pain à la maison. Et puis, il était fier comme tout. Nous n'aurions eu qu'une cosse de pois qu'il n'aurait jamais voulu des secours du curé. Ah, on ne mangeait pas tous les jours du lard chez nous. Ça ne fait rien. Pour tout ça, maman m'aimait un peu plus. Et elle trouvait toujours dans des coins un peu de graisse ou de fromage pour mettre sur mes tartines. Je n'avais pas 5 ans quand elle est morte. Ce fut notre malheur à tous. J'avais un grand frère qui était blanc comme un linge, avec une barbe toute jaune. Et bon, vous n'avez pas d'idée. Tout le monde l'aimait. On lui avait donné des noms. Les uns l'appelaient Boda, je ne sais pas pourquoi. Les autres, Jésus-Christ. Ah, c'était un ouvrier, celui-là. Il avait beau avoir une santé de rien du tout, au petit jour, il était toujours à son métier. Parce que nous étions tisserands, faut vous dire, et il ne démarrait pas avec sa navette jusqu'au soir. Et honnête avec ça, si vous saviez, on venait de partout lui apporter son fil, et toujours sans peser. Il était très ami avec le maître d'école, et c'était lui qui faisait les sentences au carnaval. Mon père, lui, c'était autre chose. Il travaillait un moment, une heure, comme ça. Et puis il s'en allait dans les champs. Et puis, quand il rentrait, il nous battait. Et fort, il était comme fou. On disait que c'était d'être poitrinaire. Heureusement qu'il y avait là mon frère. Il empêchait ma seconde sœur de me tirer les cheveux, de me faire du mal, parce qu'elle était jalouse. Il me prenait toujours par la main pour aller voir jouer aux quilles. Enfin, il soutenait à lui seul la maison. Pour ma première communion, en donna-t-il de ses coups de bâton. Ah, il en a bâti de l'ouvrage pour que je fusse comme les autres, avec une petite robe blanche où il y avait un tuyauté et un petit sac à la main. On portait alors de ça. Je n'avais pas de bonnet. Je m'étais fait, je me souviens, une jolie couronne avec des faveurs et de la moelle blanche qu'on retire en écorçant de la canette. Il y en a beaucoup chez nous dans les placards où on met rouir le chanvre. Voilà un de mes bons jours ce jour-là, avec le tirage des cochons à Noël et les fois où j'allais aider pour accoler la vigne. C'est au mois de juin, vous savez. Nous en avions une petite au haut de Saint-Hilaire. Il y eut ces années-là une année bien dure. Vous vous rappelez, mademoiselle? La grêle de 1828 qui perdit tout ça. Ça alla jusqu'à Dijon et plus loin. On fut obligé de faire du pain avec du son. Mon frère alors s'abîma de travail. Mon père, qui était à présent toujours dehors à courir dans les champs, nous rapportait quelquefois des champignons. C'était de la misère tout de même. On avait plus souvent faim qu'autre chose. Moi, quand j'étais dans les champs, je regardais si on ne me voyait pas. Je me coulais tout doucement sur les genoux, et quand j'étais sous une vache, j'ôtais un de mes sabots et je me mettais à la traire. Dame, il n'aurait pas fallu qu'on me prît. Ma plus grande sœur était en service chez le maire de l'enclos, et elle envoyait à la maison ses 80 francs de gage. C'était toujours autant. La seconde travaillait à la couture chez les bourgeois, mais ce n'était pas les prix d'à présent alors. On allait de 6 heures du matin jusqu'à la nuit pour 8 sous. Avec ça, elle voulait mettre de côté pour s'habiller à la fête le jour de Saint-Rémy. Ah, voilà comme on est chez nous. Il y en a beaucoup qui mangent 2 pommes de terre par jour pendant 6 mois pour s'avoir une robe neuve ce jour-là. Les mauvaises chances nous tombaient de tous les côtés. Mon père vint à mourir. Il avait fallu vendre un petit champ et un homme de vigne qui tous les ans nous donnait un tonneau de vin. Les notaires, ça coûte. Quand mon frère fut malade, il n'y avait rien à lui donner à boire que du râpé sur lequel on jetait de l'eau depuis 1 an. Et puis, il n'y avait plus de linge pour le changer. tous nos draps de l'armoire, où il y avait une croix d'or dessus, du temps de maman. C'était parti. Et la croix aussi. Là-dessus, avant d'être malade alors, mon frère s'en va à la fête de Clermont. Il entend dire que ma sœur a fait sa faute avec le maire où elle était, il tombe sur ceux qui disaient cela. Ils n'étaient guère forts. Eux, ils étaient beaucoup, ils le jetèrent par terre, et quand il fut par terre, ils lui donnèrent des coups de sabot dans le creux de l'estomac. On nous le rapporta comme mort. Le médecin le remit pourtant sur pied, et nous dit qu'il était guéri. Mais il ne fit plus que traîner. Je voyais qu'il s'en allait, moi, quand il m'embrassait. Quand il fut mort, le pauvre cher Palot, il fallut que Cadet-Ballard y mît toutes ses forces pour m'enlever de dessus le corps. Tout le village, le maire et tout alla à son enterrement. Ma sœur, n'ayant pu garder sa place chez ce maire, à cause des propos qu'il lui tenait, et étant partie se placer à Paris, mon autre sœur la suivit. Je me trouvai toute seule. Une cousine de ma mère me prit alors avec elle à Damblin. Mais j'étais toute déplantée, là. Je passais les nuits à pleurer. Et quand je pouvais me sauver, je retournais toujours à notre maison. Rien que de voir, de l'entrée de notre rue, la vieille vigne, notre porte, ça me faisait un effet. Il me poussait des jambes. Les braves gens qui avaient acheté la maison me gardaient jusqu'à ce qu'on vînt me chercher. On était toujours sûr de me retrouver là. À la fin, on écrivit à ma sœur de Paris que si elle ne me faisait pas venir auprès d'elle, je pourrais bien ne pas faire de vieux os. Le fait que j'étais comme de la cire. On me recommanda au conducteur d'une petite voiture qui allait tous les mois de Langres à Paris. Et voilà, comme je suis venue à Paris. J'avais alors 14 ans. Je me rappelle que pendant tout le voyage, je couchais tout habillée, parce que l'on me faisait coucher dans la chambre commune. En arrivant, j'étais couverte de poux. Chapitre 2. La vieille femme resta silencieuse. Elle comparait sa vie à celle de sa bonne. Mademoiselle de Varandeuil était née en 1782. Elle naissait dans un hôtel de la rue Royale et Mesdames de France la tenaient sur les fonts baptismaux. Son père était de l'intimité du comte d'Artois, dans la maison duquel il avait une charge. Il était de ses chasses et des familiers devant lesquels, à la messe qui précédait les chasses, celui qui devait être Charles X pressait l'officiant en lui disant à mi-voix « Psst, psst, curé, avale vite ton bon Dieu !» Monsieur de Varandeuil avait fait un de ces mariages auxquels son temps était habitué. Il avait épousé une façon d'actrice, une cantatrice, qui, sans grand talent, avait réussi au concert spirituel à côté de Madame Taudy, de Madame Ponteuil et de Mademoiselle Saint-Huberti. La petite fille, née de ce mariage en 1782, était de pauvre santé, laide, avec un grand nez déjà ridicule, le nez de son père, dans une figure grosse comme le poing. Elle n'avait rien de ce qu'aurait voulu d'elle la vanité de ses parents. Sur un fiasco qu'elle fit à 5 ans au forte-piano à un concert donné par sa mère dans son salon, elle fut reléguée parmi la domesticité. Elle n'approchait qu'une minute le matin à sa mère, qui se faisait embrasser par elle sous le menton pour qu'elle ne dérangeât pas son rouge. Quand la Révolution arrivait, monsieur de Varandeuil était, grâce à la protection du comte d'Artois, payeur des rentes. Madame de Varandeuil voyageait en Italie, où elle s'était fait envoyer sous le prétexte de soigner sa santé, abandonnant à son mari le soin de sa fille et d'un tout jeune fils. Les soucis sévères du temps, les menaces grondant contre l'argent et les familles maniant l'argent, monsieur de Varandeuil avait un frère fermier général. ne laissait guère à ce père très égoïste et très sec le loisir de cœur nécessaire pour s'occuper de ses enfants. Par là-dessus, la gêne commençait à entrer dans son intérieur. Il quittait la rue Royale et venait habiter l'hôtel du Petit Charolais, appartenant à sa mère encore vivante, qui le laissait s'y établir. Les événements marchaient. On était au commencement des années de guillotine, lorsqu'un soir, dans la rue Saint-Antoine, il marchait derrière un colporteur criant le journal. « Au voleur ! Au voleur !» Le colporteur, selon l'habitude du temps, faisait l'annonce des articles du numéro. Monsieur de Varandeuil entendit son nom, mêlé à des B et à des J, F. Il acheta le journal et il eut une dénonciation révolutionnaire. Quelque temps après, son frère était arrêté et enfermé à l'hôtel Talaru avec les autres fermiers généraux. Sa mère, prise de terreur, avait vendu follement, pour le prix des glaces, l'hôtel du Petit Charolais où il logeait. Payée en assignat, elle était morte de désespoir devant la baisse croissante du papier. Heureusement, M. de Varandeuil obtenait des acquéreurs, qui ne trouvaient pas à louer, la permission d'habiter les chambres servant autrefois aux gens d'écurie. Il se réfugiait là, sur les derrières de l'hôtel, dépouillait son nom, affichait à la porte, selon qu'il était ordonné, son nom patronymique de « Rouleau », sous lequel il enterrait le « de Varandeuil » et l'ancien courtisan du comte d'Artois. Il y vécut solitaire, effacé, enfoui, cachant sa tête, ne sortant pas, rasé dans son trou, sans domestique, servi par sa fille et lui laissant tout faire. La terreur se passa pour eux dans l'attente, le tressaillement, l'émotion suspendue de la mort. Tous les soirs, la petite allait écouter par une lucarne grillée les condamnations du jour, la liste des gagnants à la loterie de Sainte-Guillotine. À chaque coup frappé à la porte, elle allait ouvrir, en croyant qu'on venait prendre son père pour le mener sur la place de la Révolution, où son oncle avait été déjà mené. Vint le moment où l'argent si rare, ne donna plus le pain. Il fallut l'enlever presque de force à la porte des boulangers. Il fallut le conquérir par des heures passées dans le froid et le vif des nuits, dans la presse et l'écrasement des foules, faire queue dès 3 heures du matin. Le père ne se souciait pas de se risquer dans cet amas de peuple. Il avait peur d'être reconnu, de se compromettre avec une de ces foucades qui auraient échappé n'importe où à la fougue de son caractère. Puis il reculait devant l'ennui et la dureté de la corvée. Le petit garçon était encore trop petit, on l'eût écrasé. Ce fut à la fille que revint la charge de gagner chaque jour le pain des trois bouches. Elle le gagna. Son petit corps maigre, perdu dans un grand gilet de tricot à son père, un bonnet de coton enfoncé jusqu'aux yeux, les membres serrés pour retenir un reste de chaleur, elle attendait en grelottant, les yeux meurtris de froid, au milieu des bousculades et des poussées, jusqu'au moment où la boulangère de la rue des Francs-Bourgeois lui mettait dans les mains un pain que ses petits doigts, raides d'onglets, avait peine à saisir. À la fin, cette pauvre petite fille qui revenait tous les jours avec sa figure de souffrance et sa maigreur qui tremblait, apitoyait la boulangère. Avec la bonté d'un cœur de peuple, aussitôt que la petite apparaissait dans la longue queue, elle lui envoyait par son garçon le pain qu'elle venait chercher. Mais un jour, comme la petite allait le prendre, une femme, jalouse du passe-droit et de la préférence, donnait à l'enfant un coup de sabot qui la retint près d'un mois au lit. Mademoiselle de Varandeuil en porta la marque toute sa vie. Pendant ce mois, la famille fut morte de faim, sans une provision de riz qu'avait eu la bonne idée de faire une de leurs connaissances, la comtesse d'Auteuil et qu'elle voulut bien partager avec le père et les deux enfants. Monsieur de Varandeuil se sauvait ainsi du tribunal révolutionnaire par l'obscurité d'une vie enterrée. Il y échappait encore par les comptes de sa place qu'il devait rendre et qu'il avait eu le bonheur de faire ajourner et remettre de mois en mois. Puis aussi, il repoussait la suspicion par des animosités personnelles contre de grands personnages de la cour, par des haines que beaucoup de serviteurs de princes avaient puisées auprès des frères du roi contre la reine. Toutes les fois qu'il avait eu occasion de parler de la malheureuse femme, il avait eu des paroles violentes, amères, injurieuses, d'un accent si passionné et si sincère qu'elle lui avait presque donné l'apparence d'un ennemi de la royauté. En sorte que ceux pour lesquels il n'était que le citoyen Rouleau le regardaient comme un patriote, et que ceux qui le connaissaient sous son ancien nom l'excusaient presque d'avoir été ce qu'il avait été, un noble, l'ami d'un prince du sang et un homme en place. La République en était au souper patriotique, à ses repas de toute une rue dans la rue, dont Mademoiselle de Varandeuil, dans ses souvenirs brouillés qui mêlaient leur terreur, voyait les tables rue pavée, le pied dans le ruisseau de sang de septembre sorti de la force. Ce fut un de ces soupers que Monsieur de Varandeuil eut une invention qui acheva de lui assurer la vie sauve. Il raconta à deux de ses voisins de table, chauds patriotes, dont l'un était lié avec Chaumette, qu'il se trouvait dans un grand embarras, que sa fille n'avait été condoyée, qu'elle manquait d'état civil, qu'il serait bien heureux si Chaumette voulait la faire inscrire sur les registres de la municipalité et l'honorer d'un nom choisi par lui dans le calendrier républicain de la Grèce ou de Rome. Chaumette fixait bientôt un rendez-vous à ce père qui était si bien à la hauteur, comme on disait alors. Séance tenante, on faisait entrer Mademoiselle de Varandeuil dans un cabinet où elle trouvait deux matrones chargées de s'assurer de son sexe et auxquelles elle montrait sa poitrine. On la ramenait alors dans la grande salle des déclarations et là, après une allocution métaphorique, Chaumette la baptisait Sempronie, un nom que l'habitude devait conserver à Mademoiselle de Varandeuil et qu'elle ne quitta plus. Un peu couverte et rassurée par là, la famille traversa les terribles jours qui précédèrent la chute de Robespierre. Enfin arrivait le 9 Thermidor et la délivrance. Mais la pauvreté restait grande et pressante au logis. On avait vécu tout ce dur temps de la Révolution, on allait vivre tout le misérable temps du Directoire qu'avec une ressource bien inattendue, un argent de Providence envoyé par la folie. Les deux enfants et le père n'avaient guère subsisté qu'avec le revenu de 4 actions de vaudeville, un placement que M. de Varandeuil avait eu l'inspiration de faire en 1791, et qui se trouva être la meilleure affaire de ces années de mort, où l'on avait besoin d'oublier la mort tous les soirs, de ces jours suprêmes, où chacun voulait rire de son dernier rire à la dernière chanson. Bientôt, ces actions, se joignant au recouvrement de quelques créances, donnèrent mieux que du pain à la famille. La famille sortait alors des combles de l'hôtel du Petit Charolais, et prenait un petit appartement dans le Marais, rue du Chaume. Du reste, rien n'était changé aux habitudes de l'intérieur. La fille continuait à servir son père et son frère. Monsieur de Varandeuil s'était peu à peu accoutumé à ne plus voir en elle que la femme de son costume et de l'ouvrage qu'elle faisait. Les yeux du père ne voulaient plus reconnaître une fille sous l'habit et les basses occupations de cette servante. Ce n'était plus quelqu'un de son sang, quelqu'un qui avait l'honneur de lui appartenir. C'était une domestique qu'il avait là, sous la main. Et son égoïsme se fortifiait si bien dans cette dureté et cette idée, Il trouvait tant de commodité à ce service filial, affectueux, respectueux et ne coûtant rien, qu'il eut toutes les peines du monde à y renoncer plus tard, quand un peu plus d'argent fit retour à la maison. Il fallut des batailles pour lui faire prendre une bonne qui remplaça son enfant et épargna à la jeune fille les travaux les plus humiliants de la domesticité. On était sans nouvelles de madame de Varandeuil, qui s'était refusée de venir retrouver son mari à Paris pendant les premières années de la Révolution. Bientôt, l'on apprenait qu'elle s'était remariée en Allemagne, en produisant, comme l'acte de décès de son mari, l'acte de décès de son beau-frère guillotiné, dont le prénom avait été changé. La jeune fille grandit donc, abandonnée, sans caresse, sans autre mère qu'une femme morte à tous les siens et dont son père lui enseignait le mépris. Son enfance s'était passée dans une anxiété de tous les instants, dans les privations qui rognent la vie, dans la fatigue d'un travail épuisant ses forces d'enfant malingre, dans une attente de la mort qui devenait à la fin une impatience de mourir. Il y avait eu des heures où la tentation était venue à cette fille de 13 ans de faire comme des femmes de ce temps, d'ouvrir la porte de l'hôtel et de crier dans la rue « Vive le roi !» pour en finir. Sa jeunesse continuait son enfance avec des ennuis moins tragiques. Elle avait à subir les violences d'humeur, les exigences, les âpretés, les tempêtes de son père, un peu matées et contenues jusque-là par le grand orage du temps. Elle restait vouée aux fatigues et aux humiliations d'une servante. Elle demeurait comprimée et rabaissée, isolée auprès de son père, écartée de ses bras, de ses baisers, le cœur gros et douloureux de vouloir aimer et de n'avoir rien à aimer. Elle commençait à souffrir du vide et du froid que fait autour d'une femme une jeunesse qui n'attire pas et ne séduit pas, une jeunesse déshéritée de beauté et de grâce sympathique. Elle se voyait inspirer une espèce de commisération avec son grand nez, son teint jaune, sa sécheresse, sa maigreur. Elle se sentait laide, et d'une laideur pauvre dans ses misérables costumes, ses tristes robes de lainage qu'elle faisait elle-même, et dont son père lui payait l'étoffe en rechignant. Elle ne put obtenir de lui une petite pension pour sa toilette qu'à l'âge de 35 ans. Que de tristesse, que d'amertume, que de solitude pour elle, dans cette vie avec ce vieillard morose, aigri, toujours grondant et bougonnant au logis, n'ayant d'amabilité que pour le monde, et qui la laissait tous les soirs pour aller dans les maisons rouvertes sous le directoire et au commencement de l'Empire. À peine s'il la sortait de loin en loin, et quand il la sortait, c'était toujours pour la mener à cet éternel vaudeville où il avait des loges. Encore sa fille avait-elle une terreur de ses sorties. Elle tremblait tout le temps qu'elle était avec lui. Elle avait peur de son caractère si violent, du ton que ses colères avaient gardé de l'ancien régime, de sa facilité à lever sa canne sur l'insolence de la canaille. Presque chaque fois, c'était des scènes avec le contrôleur, des prises de langue avec des gens du parterre, des menaces de coups de poing qu'elle arrêtait en faisant tomber dessus la grille de la loge. Cela continuait dans la rue, jusque dans le fiacre, avec le cocher qui ne voulait pas rouler pour le prix de monsieur de Varandeuil. Le laissait attendre 1 heure, 2 heures, sans marcher. Parfois d'impatience, dételait, et le laissait dans la voiture avec sa fille, qui le suppliait vainement de céder et de payer. Jugeant que ses plaisirs devaient suffire à Sempronie, jaloux d'ailleurs de l'avoir tout à lui et toujours sous la main, monsieur de Varandeuil ne la laissait se lier avec personne. Il ne l'emmenait pas dans le monde. Il ne la menait chez leurs parents revenus de l'émigration qu'aux jours de réception officielle et d'assemblée de famille. Il la tenait liée à la maison. Ce fut seulement à 40 ans qu'il la jugea assez grande personne pour lui donner la permission de sortir seule. Ainsi, nulle amitié, nulle relation pour soutenir la jeune fille. Elle n'avait plus même à côté d'elle son jeune frère, parti pour les États-Unis et engagé au service de la marine américaine. Le mariage lui était défendu par son père, qui n'admettait pas qu'elle eût seulement l'idée de se marier, de l'abandonner. Tous les partis qui auraient pu se présenter, il les combattait et les repoussait d'avance, de façon à ne pas même laisser à sa fille le courage de lui parler, si jamais une occasion s'offrait à elle. Cependant, nos victoires étaient en train de déménager l'Italie. Les chefs-d'œuvre de Rome, de Florence, de Venise se pressaient à Paris. L'art italien effaçait tout. Les collectionneurs ne s'honoraient plus que de tableaux de l'école italienne. L'occasion d'une fortune apparut là, dans ce mouvement de goût, à monsieur de Varandeuil. Lui aussi avait été pris de ce dilettantisme artistique qui fut une des délicates passions de la noblesse avant la Révolution. Il avait vécu dans la société des artistes, des curieux, il aimait les tableaux. Il songea à rassembler une galerie d'Italiens et à la vendre. Paris était encore plein des ventes et des dispersions d'objets d'art faites par la Terreur. Monsieur de Varandeuil se mit à battre le pavé. C'était alors le marché des grandes toiles. Et à chaque pas, il trouva. Chaque jour, il acheta. Bientôt, le petit appartement s'encombra, à ne pas laisser la place aux meubles. De vieux tableaux noirs, si grands pour la plupart, qu'ils ne pouvaient tenir au mur avec leurs cadres. Tout cela était baptisé Raphaël, Vinci, André del Sarte. Ce n'était que chefs-d'œuvre devant lesquels le père tenait souvent sa fille pendant des heures, lui imposait ses admirations, la lassait de ses extases. Il montait d'épithètes en épithètes, se grisait, délirait, finissait par croire qu'il était en marché avec un acheteur idéal, débattait le prix du chef-d'œuvre, criait « 100 000 livres, mon Rosso ! Oui, monsieur, 100 000 livres !» Sa fille, effrayée de tout l'argent que ces grandes vilaines choses, où étaient de grands affreux hommes tout nus, prenait au ménage, essayait des représentations, voulait arrêter cette ruine. Monsieur de Varandeuil s'emportait, s'indignait en homme honteux de trouver si peu de goût dans son sang, lui disait que plus tard ce serait sa fortune, qu'elle verrait s'il était un imbécile. À la fin, elle le décidait à réaliser. La vente eut lieu. Ce fut un désastre, un des plus grands écroulements d'illusions qu'ait vu la salle vitrée de l'hôtel Bullion. Blessé à fond, furieux de cet échec, qui n'était pas seulement une perte d'argent, un accroc à sa petite fortune, mais une défaite du connaisseur, un soufflet donné à ses connaissances sur la joue de ses Raphaël. Monsieur de Varandeuil déclara à sa fille qu'ils étaient désormais trop pauvres pour rester à Paris et qu'il fallait aller vivre en province. Élevée et bercée par un siècle qui formait peu les femmes à l'amour de la campagne, mademoiselle de Varandeuil essaya vainement de combattre la résolution de son père. Elle fut obligée de le suivre où il voulait aller et de perdre, en quittant Paris, la société, l'amitié de deux jeunes parentes auxquelles, dans de trop rares entrevues, elle s'était demi-ouverte et dont elle avait senti le cœur venir à elle comme à une sœur aînée. C'était à l'île Adam que monsieur de Varandeuil louait une petite maison. Il se trouvait là, près d'anciens souvenirs, dans l'air d'une ancienne petite cour, à proximité de deux ou trois châteaux qui commençaient à se repeupler et dont il connaissait les maîtres. Puis, sur cette terre des Conti, était venu s'établir, depuis la Révolution, un petit monde de gros bourgeois, de commerçants enrichis. Le nom de monsieur de Varandeuil sonnait haut à l'oreille de tous ces braves gens. On le saluait très bas, on se disputait l'honneur de l'avoir, on écoutait respectueusement, presque religieusement, les histoires qu'il contait de l'ancienne société. Et flatté, caressé, honoré comme un reste de Versailles, il avait le haut bout et la place d'un seigneur dans ce monde. Quand il dînait chez madame Mutel, une ancienne boulangère, riche de 40 000 livres de rente, la maîtresse de maison se levait de table, en robe de soie, pour aller frire elle-même les salsifis. Monsieur de Varandeuil ne les aimait que de sa façon. Mais ce qui avait décidé avant tout la retraite de monsieur de Varandeuil à l'île Adam, ce n'était point ses agréments, c'était un projet. Il y était venu chercher le loisir d'un grand travail. Ce qu'il n'avait pu faire pour l'honneur et la gloire de l'art italien par sa collection, il voulait le faire par l'histoire. Il avait appris un peu d'italien avec sa femme. Il se mit en tête de donner la vie des peintres de Vasari au public français, de la traduire en se faisant aider par sa fille, qui, toute petite, avait entendu parler italien à la femme de chambre de sa mère et retenu quelques mots. Il enfonça la jeune fille dans Vasari, enferma son temps et sa pensée dans les grammaires, les dictionnaires, les commentateurs, tous les scoliastes de l'art italien. Latin voûté sur l'ingrat travail, sur l'ennui et la fatigue de traduire des mots à tâtons. Tout le livre retomba sur elle. Quand il lui avait taillé sa besogne, la laissant en tête-à-tête avec les volumes reliés en vélin blanc, il partait se promener, rendait des visites aux environs, allait jouer dans un château ou dîner chez les bourgeois de sa connaissance, auxquels il se plaignait pathétiquement de l'effort et du labeur que lui coûtait l'énorme entreprise de sa traduction. Il rentrait, écoutait la lecture du morceau traduit, faisait ses observations, ses critiques, dérangeait une phrase pour y mettre un contresens que sa fille ôtait quand il était parti, puis il reprenait sa promenade, ses courses, comme un homme qui a bien gagné sa journée, portant haut, marchant, son chapeau sous le bras, en fins escarpins, jouissant de lui-même, du ciel, des arbres, du dieu de Rousseau, dont la nature est tendre aux plantes. De temps en temps, des impatiences d'enfants et de vieillards le prenaient. Il voulait tant de pages pour le lendemain, et il forçait sa fille à veiller une partie de la nuit. 2 ou 3 ans se passèrent dans ce travail, où finirent par s'abîmer les yeux de Sempronie. Elle vivait ensevelie dans le Vasari de son père, plus seule que jamais, éloignée par une native répugnance hautaine des bourgeoises de l'île Adam et de leur façon à la madame Angot, trop misérablement vêtue pour aller dans les châteaux. Point de plaisir, point d'amusement pour elle qui ne fût traversée et tourmentée par les singularités et les taquineries de son père. Il arrachait les fleurs qu'elle plantait en cachette dans le jardinet. Il n'y voulait que des légumes et les cultivait lui-même en débitant de grandes théories utilitaires, des arguments qui auraient pu servir à la Convention pour convertir les Tuileries en champs de pommes de terre. Tout ce qu'elle avait de bon, c'était de loin en loin une semaine pendant laquelle son père lui accordait la permission de recevoir une de ses 2 jeunes amies. Une semaine qui aurait été 8 jours de paradis pour Sempronie, si son père n'en avait empoisonné les joies, les distractions, les fêtes, avec ses manies toujours menaçantes, ses humeurs toujours armées. Des difficultés à propos d'un rien, d'un flacon d'eau de Cologne que Sempronie demandait pour la chambre de son ami, d'un entremets pour son dîner, d'un endroit où elle voulait la mener. À l'île Adam, monsieur de Varandeuil avait pris une domestique qui presque aussitôt était devenue sa maîtresse. De cette liaison, un enfant était né, que le père, dans le cynisme de son insouciance, avait l'impudeur de faire élever sous les yeux de sa fille. Avec les années, cette bonne avait pris pied dans la maison. Elle finissait par gouverner l'intérieur, le père et la fille. Un jour arriva où monsieur de Varandeuil voulut la faire asseoir à sa table et la faire servir par Sempronie. C'en était trop. Mademoiselle de Varandeuil se révolta sous l'outrage et se redressa de toute la hauteur de son indignation. Sourdement, silencieusement, dans le malheur, l'isolement, la dureté des choses et des gens autour d'elle, la jeune fille s'était formée une âme droite et forte. Les larmes l'avaient trempée au lieu de l'amollir. Sous la docilité et l'humilité filiale, sous l'obéissance passive, sous une douceur apparente, elle cachait un caractère de fer, une volonté d'homme, un de ces cœurs que rien ne plie et qui ne fléchissent pas. À la bassesse que son père exigeait d'elle, elle se releva sa fille, ramassa toute sa vie, lui en jeta en un flot de paroles la honte et le reproche à la face, et finit en lui disant que si cette femme ne sortait pas de la maison le soir même, ce serait elle qui en sortirait, et que, Dieu merci, elle ne serait pas embarrassée de vivre n'importe où avec les goûts simples qu'il lui avait donnés. Le père, stupéfait, tout abasourdi de la révolte, cédait et renvoyait la domestique. Mais il gardait à sa fille une lâche rancune du sacrifice qu'elle lui avait arraché. Son ressentiment se trahissait en mots aigres, en paroles agressives, en remerciements ironiques, en sourires d'amertume. Sempronie le soignait mieux, plus doucement, plus patiemment, pour toute vengeance. Une dernière épreuve attendait son dévouement. Le vieillard était frappé d'une attaque d'apoplexie qui lui laissait tout un côté du corps raidi et mort, une jambe boiteuse, l'intelligence endormie, avec la conscience vivante de son malheur et de sa dépendance vis-à-vis de sa fille. Alors, tout ce qu'il y avait de mauvais au fond de lui s'exaspéra et se déchaîna. Il eut des férocités d'égoïsme. Sous le tourment de sa souffrance et de sa faiblesse, il devint une espèce de fou méchant. Mademoiselle de Varandeuil voua ses jours et ses nuits à ce malade, qui semblait lui en vouloir de ses affections, être humilié de ses soins, comme d'une générosité et d'un pardon. Souffrir au fond de lui, de voir toujours à ses côtés, infatigable et prévenante, cette figure du devoir. Quelle vie pourtant! Il fallait combattre l'incurable ennui du malheureux, être toujours à lui tenir compagnie, le promener, le soutenir toute la journée. Il fallait le faire jouer quand il était à la maison, et ne le faire ni trop perdre ni trop gagner. Il fallait se disputer avec ses envies, ses gourmandises, lui retirer les plats, essuyer pour tout ce qu'il voulait, des plaintes, des reproches, des injures, des larmes, des désespoirs furieux, les rages d'enfants colères qu'ont les vieux impotents. Et cela dura 10 ans. 10 ans, pendant lesquels mademoiselle de Varandeuil n'eut d'autre récréation et d'autre soulagement que de laisser aller les tendresses, les chaleurs d'une affection maternelle sur une de ses deux jeunes amies et parentes nouvellement mariées, sa poule, comme elle l'appelait. Le bonheur de mademoiselle de Varandeuil fut d'aller tous les 15 jours passer un peu de temps dans le reménage. Elle embrassait dans son berceau le joli enfant que le sommeil embrassait déjà. Elle dînait au pas de course, au dessert elle envoyait chercher une voiture, et se sauvait avec la hâte d'un collégien en retard. Encore, aux dernières années de la vie de son père, n'eut-elle plus la permission du dîner. Le vieillard n'autorisait plus une si longue absence, et la retenait presque continuellement auprès de lui, en lui répétant qu'il savait bien que ce n'était pas amusant de garder un vieil infirme comme lui, mais qu'elle en serait bientôt débarrassée. Il mourait en 1818 et ne trouvait, avant de mourir, que ces mots pour dire adieu à celle qui avait été sa fille pendant 40 ans. « Va, je sais bien que tu ne m'as jamais aimé. » 2 ans avant la mort de son père, le frère de Sempronii était revenu d'Amérique. Il en ramenait une femme de couleur qu'il avait soignée et sauvée de la fièvre jaune, et 2 filles déjà grandes qu'il avait eues de cette femme avant de l'épouser. Tout en ayant les idées de l'ancien régime sur les Noirs, et quoiqu'elle regardât cette femme de couleur sans instruction, avec son parler nègre, ses rires de bête, sa peau qui graissait son linge, absolument comme une singesse, Mademoiselle de Varandeuil avait combattu l'horreur et la résistance de son père à recevoir sa bru. Et c'était elle qui l'avait décidé, dans les derniers jours de sa vie, à laisser son frère lui présenter sa femme. Son père mort, elle songea que ce ménage était tout ce qui lui restait de famille. Monsieur de Varandeuil, auquel le comte d'Artois avait fait payer, à la rentrée des Bourbons, les arrérages de sa place, laissait à peu près 10 000 livres de rente à ses enfants. Le frère n'avait, avant cette succession, qu'une pension de 1 500 francs des États-Unis. Mademoiselle de Varandeuil estima que 5 à 6 000 livres de rente ne suffiraient pas à l'aisance de ce ménage où il y avait 2 enfants. Et tout de suite, il lui vint la pensée de mettre là sa part de succession. Elle proposa cet apport le plus naturellement et le plus simplement du monde. Son frère accepta. Et elle vint habiter avec lui un joli petit appartement du haut de la rue de Clichy, au 4e d'une des premières maisons bâties sur le terrain, presque vague encore, où l'air de la campagne passait gaiement à travers l'ébauche des constructions blanches. Elle continua là sa vie modeste, ses toilettes humbles, ses habitudes d'épargne, contente de la plus mauvaise chambre de l'appartement, et ne dépensant pour elle pas plus de 1 800 à 2 000 francs par an. Mais bientôt, une sourde jalousie, lentement couvée, perçait chez la mulâtresse. Elle prenait ombrage de cette amitié du frère et de la sœur, qui semblait lui retirer son mari des bras. Elle souffrait de cette communion que faisaient entre eux la parole, l'esprit, le souvenir. Elle souffrait de ces causeries auxquelles elle ne pouvait se mêler, de ce qu'elle entendait dans leur voix sans le comprendre. Le sentiment de son infériorité lui mettait au cœur les colères et le feu des haines qui brûlent sous le tropique. Elle prit ses enfants pour se venger, les poussa, les excita, les aiguillonna contre sa belle-sœur. Elle les encouragea à en rire, à s'en moquer. Elle applaudit à cette mauvaise petite intelligence d'enfant chez qui l'observation commence par la méchanceté. Une fois lâchée, elle les laissa rire de tous les ridicules de leur tante, de son physique, de son nez, de ses toilettes, dont la misère pourtant faisait leur élégance. Toutes deux. Ainsi dressées et soutenues, les petites arrivèrent vite à l'insolence. Mademoiselle de Varandeuil avait la vivacité de sa bonté. Chez elle, la main appartenait, aussi bien que le cœur, au premier mouvement. Puis, sur la manière d'élever les enfants, elle pensait comme son temps. Elle toléra bien, sans rien dire, 2 ou 3 impertinences, mais, à la 4e, elle empoigna la rieuse et, lui troussant les jupes, elle lui donna, malgré ses 12 ans, la plus belle fessée qu'elle eût jamais reçue. La mulâtresse jeta les hauts cris, dit à sa belle-sœur qu'elle avait toujours détesté ses enfants, qu'elle voulait les lui tuer. Le frère s'interposa entre les 2 femmes et parvint à les rapatrier, tant bien que mal. Mais il arriva de nouvelles scènes où les petites filles, enragées contre la femme qui faisait pleurer leur mère, torturèrent leur tante avec des raffinements d'enfants terribles mêlés à des cruautés de petite sauvagesse. Après plusieurs replâtrages, il fallut se séparer. Mademoiselle de Varandeuil se décida à quitter son frère, qu'elle voyait trop malheureux dans ce tiraillement journalier de ses plus chères affections. Elle le laissa à sa femme, à ses enfants. Cette séparation fut un des grands déchirements de sa vie. Elle, qui était si forte contre l'émotion, si concentrée, et que l'on voyait mettre, comme un orgueil, souffrir, manqua, faiblir quand il lui fallut quitter cet appartement, où elle avait rêvé un peu de bonheur dans son petit coin, à côté du bonheur des autres. Ses dernières larmes lui montèrent aux yeux. Elle ne s'éloigna pas trop pour être encore à la portée de son frère, le soigner s'il était malade, le voir, le rencontrer. Mais il lui restait un vide au cœur et dans la vie. Elle avait commencé à voir sa famille depuis la mort de son père. Elle s'en rapprocha, laissa revenir à elle les parents que la restauration remettait en haute et puissante position, alla à ceux que le nouveau pouvoir laissait petits et pauvres. Mais surtout, elle revint à sa chère poule et à une autre petite cousine, mariée elle aussi, et devenue la belle-sœur de la poule. Son existence alors, avec ses relations, se régla singulièrement. Jamais Mademoiselle de Varandeuil n'allait dans le monde, en soirée, au spectacle. Il fallut l'éclatant succès de Mademoiselle Rachel pour la décider à mettre les pieds dans un théâtre. Encore ne s'y risqua-t-elle que deux fois. Jamais elle n'acceptait un grand dîner. Mais il y avait deux ou trois maisons où, comme chez la poule, elle s'invitait à l'improviste quand il n'y avait personne. « Bichette, disait-elle sans façon, ton mari et toi, vous ne faites rien ce soir? Je reste à manger votre fricot. » À 8 heures régulièrement, elle se levait. Et quand le mari prenait son chapeau pour la reconduire, elle le lui faisait tomber des mains avec un « Allons donc, mon cher, une vieille bique comme moi, mais c'est moi qui fais peur aux hommes dans la rue. » Et puis on restait 10 jours, 15 jours sans la voir. Mais arrivait-il un malheur, une nouvelle de mort, une tristesse dans la maison, un enfant tombait-il malade, Mademoiselle de Varandeuil la prenait toujours à la minute. On ne savait d'où. Elle arrivait, en dépit de tout, du temps et de l'heure, donnait un grand coup de sonnette à elle. On avait fini par l'appeler le coup de sonnette de la cousine. Et en une minute, débarrassée de son parapluie qui ne la quittait pas, dépêtrée de ses socques, son chapeau jeté sur une chaise, elle était toute à ceux qui avaient besoin d'elle. Elle écoutait, elle parlait, elle relevait les courages avec je ne sais quel accent martial, une langue énergique à la façon des consolations militaires et chaudes, comme un cordial. Si c'était un petit qui n'allait pas bien, elle arrivait droit à son lit, riait à l'enfant qui n'avait plus peur, bousculait le père et la mère, allait, venait, ordonnait, prenait la direction de tout, maniait les sangsues, arrangeait les cataplasmes, ramenait l'espérance, la gaieté, la santé au pas de charge. Dans toute sa famille, la vieille demoiselle tombait ainsi providentiellement, soudainement, au jour de peine, d'ennui, de chagrin. On ne la voyait que quand il fallait ses mains pour guérir, son dévouement pour consoler. C'était une femme impersonnelle, pour ainsi dire, à force de cœur. Une femme qui ne s'appartenait point. Dieu ne semblait l'avoir faite que pour la donner aux autres. Son éternelle robe noire qu'elle s'obstinait à porter, son châle usé et retint, son chapeau ridicule, sa pauvreté de mise, étaient pour elle le moyen d'être, avec sa petite fortune, riche à faire le bien, dépensière en charité, la poche toujours pleine pour donner aux pauvres, non de l'argent. Elle craignait le cabaret, mais un pain de 4 livres qu'elle leur payait chez le boulanger. Et puis, avec cette misère-là, elle se donnait encore son plus grand luxe, la joie des enfants de ses amis, qu'elle comblait d'étrennes, de cadeaux, de surprises, de plaisirs. Y en avait-il un, par exemple, que sa mère, absente de Paris, avait laissé à la pension, par un beau dimanche d'été, et le gamin, de dépit, s'était-il fait mettre en retenue. Il était tout étonné de voir, au coup de 9 heures, déboucher dans la cour la cousine. La cousine agrafant encore la dernière agrafe de sa robe, tant elle était pressée. Et quelle désolation en la voyant. « Ma cousine !» disait-il piteusement, avec une de ces rages où l'on a à la fois l'envie de pleurer et de tuer son pion. « C'est que je suis en retenue. »« En retenue ? Ah, bien oui, en retenue. Et tu crois que je me serais décarcassée comme ça ? Est-ce qu'il se fiche de moi, ton maître de pension ? Où est-il, ce magot-là que je lui parle ? Tu vas t'habiller en attendant, et vite !» Et l'enfant n'osait encore espérer qu'une femme aussi mal mise eût la puissance de faire lever une retenue quand il se sentait pris par le bras. C'était la cousine qui l'enlevait, le jetait en voiture, tout étourdi et confondu de joie, et l'emmenait au bois de Boulogne. Elle l'y faisait promener à âne toute la journée, en poussant la bête avec une branche cassée et en criant « Hu !» Puis, après un bon dîner chez Borne, elle le ramenait, et sous la porte cochère de la pension, en l'embrassant, elle lui mettait dans la main une large pièce de 100 sous. Étrange vieille fille ! Les épreuves de toute son existence, le mal de vivre, les éternelles souffrances de son corps, une si longue torture physique et morale, l'avaient comme détachée et mise au-dessus de la vie. Son éducation, ce qu'elle avait vu, le spectacle de l'extrémité des choses, la révolution, l'avait formée au dédain des misères humaines. Et cette vieille femme, à laquelle ne restait que le souffle, s'était élevée à une sereine philosophie, à un stoïcisme mâle, hautain, presque ironique. Quelquefois, elle commençait à s'emporter contre une douleur un peu trop vive. Puis, brusquement, au milieu de sa plainte, elle se jetait à elle-même un mot de colère et de raillerie sur lequel sa figure même s'apaisait. Elle était gaie, d'une gaieté de source, jaillissante et profonde, la gaieté des dévouements qui ont tout vu, du vieux soldat ou de la vieille sœur d'hôpital. Excellemment bonne, quelque chose pourtant manquait à sa bonté, le pardon. Jamais elle n'avait pu fléchir ni plier son caractère jusque-là. Un froissement, un mauvais procédé, un rien qui atteignait son cœur, la blessait pour toujours. Elle n'oubliait pas. Le temps, la mort même, ne désarmait pas sa mémoire. De religion, elle n'en avait pas. Née à une époque où la femme s'en passait, elle avait grandi dans un temps où il n'y avait plus d'église. La messe n'existait pas quand elle était jeune fille. Rien ne lui avait donné l'habitude ni le besoin de Dieu. Et elle avait toujours gardé pour les prêtres une espèce de répugnance haineuse qui devait tenir à quelque secrète histoire de famille dont elle ne parlait jamais. Pour toute foi, toute force et toute piété, elle avait l'orgueil de sa conscience. Elle jugeait qu'il suffisait de tenir à l'estime de soi-même, pour bien faire et ne jamais faillir. Elle était tout entière formée ainsi singulièrement par les 2 siècles où elle avait vécu. Mélangée de l'un et de l'autre, trempée aux 2 courants de l'Ancien Régime et de la Révolution. Depuis Louis XVI, qui n'était pas monté à cheval au 10 août, elle n'estimait plus les rois, mais elle détestait la canaille. Elle voulait l'égalité, et elle avait horreur des parvenus. Elle était républicaine et aristocrate, mêlait le scepticisme aux préjugés, l'horreur de 93 qu'elle avait vue, aux vagues et généreuses idées d'humanité qui l'avaient bercée. Ses dehors étaient tout masculins. Elle avait la voix brusque, la parole franche, la langue des vieilles femmes du XVIIIe siècle, relevée d'un accent de peuple. Une élocution à elle, garçonnière et colorée, passant par-dessus la pudeur des mots et hardie à appeler les choses par leur nom cru. Cependant, les années passaient, emportant la Restauration et la monarchie de Louis-Philippe. Elle voyait, un à un, tous ceux qu'elle avait aimés s'en aller. toute sa famille prendre le chemin du cimetière. La solitude se faisait autour d'elle, et elle restait étonnée et triste que la mort l'oubliât. Elle, qui y aurait si peu résisté, elle déjà tout inclinée vers la tombe, et obligée de baisser son cœur vers les petits-enfants amenés à elle par les fils et les filles des amis qu'elle avait perdus. Son frère était mort, sa chère poule n'était plus, la belle-sœur de la poule seule lui restait. Mais c'était une existence qui tremblait, prête à s'envoler. Foudroyée par la mort d'un enfant attendu pendant des années, la pauvre femme se mourait de la poitrine. Mademoiselle de Varandeuil se chambra avec elle tous les jours, de midi à 6 heures, pendant 4 ans. Elle vécut à côté d'elle, tout ce temps, dans l'air renfermé et l'odeur des fumigations. Sans se laisser arrêter 1 heure par la goutte, les rhumatismes, elle apporta son temps, sa vie, à cette agonie si douce qui regardait le ciel où sont les enfants morts. Et quand au cimetière, mademoiselle de Varandeuil eut baisé le cercueil de la morte pour l'embrasser une dernière fois, il lui sembla qu'il n'y avait plus personne autour d'elle et qu'elle était toute seule sur la terre. De ce jour, cédant aux infirmités qu'elle n'avait plus de raison pour secouer, elle s'était mise à vivre de la vie étroite et renfermée des vieillards qui usent à la même place le tapis de leur chambre, ne sortant plus, ne lisant plus guère à cause de la fatigue de ses yeux, et restant le plus souvent enfoncée dans son fauteuil à revoir et à revivre le passé. Elle gardait des journées la même position, les yeux ouverts et rêvant, loin d'elle-même, loin de la chambre et de l'appartement, allant où ses souvenirs la menaient, à des visages lointains, à des lieux effacés, à des têtes chéries et pâles, perdues dans une somnolence solennelle que Germini respectait en disant « Mademoiselle est dans ses réflexions ». Un jour pourtant, toutes les semaines, elle sortait. C'était même pour cette sortie, pour être plus près de l'endroit où elle voulait aller ce jour-là, qu'elle avait quitté son appartement de la rue Thébout et qu'elle était venue se loger rue de Laval. Un jour, chaque semaine, sans que rien pût l'en empêcher, même la maladie, elle allait au cimetière Montmartre, là où reposaient son père, son frère, les femmes qu'elle regrettait, tous ceux qui avaient fini de souffrir avant elle. Des morts et de la mort, elle avait un culte presque antique. La tombe lui était sacrée, chère et amie. Elle aimait, pour l'attendre et être prête à son corps, la terre d'espérance et de délivrance où dormaient les siens. Ce jour-là, elle partait de bonne heure avec sa bonne qui lui donnait le bras et portait un pliant. Près du cimetière, elle entrait chez une marchande de couronne qui la connaissait depuis de longues années et qui, l'hiver, lui apportait sa chaufferette sous les pieds. Là, elle se reposait quelques instants. Puis, chargeant Germini de couronnes d'immortelles, elle passait la porte du cimetière, prenait l'allée gauche du cèdre de l'entrée et faisait lentement son pèlerinage de tombe en tombe. Elle jetait les fleurs flétries, balayait les feuilles mortes, nouait les couronnes, s'asseyait sur son pliant, regardait, songeait, détachait du bout de son ombrelle, distraitement, une moisissure de mousse sur la pierre plate. Puis elle se levait, se retournait comme pour dire à revoir à la tombe qu'elle quittait, allait plus loin, s'arrêtait encore, causait tout bas, comme elle avait déjà fait, avec ce qui dormait de son cœur sous cette pierre. Et sa visite ainsi faite, à tous les morts de ses affections, elle revenait lentement, religieusement, s'enveloppant de silence et comme ayant peur de parler.